Chapitre 7. Mardi 8 décembre, fin de matinée. Deux êtres désincarnés serrent contre eux un fœtus gris. L'artiste, Sim Schulman, a mélangé ocre, hématite, magnésie et fusain avec de la graisse animale pour ensuite étaler ses couleurs sur de grandes dalles. Des traits doux et tendres. Au lieu d'un pinceau, Schulman a utilisé un bâton à la pointe carbonisée. Il a emprunté la technique de l'art magdalénien français et espagnol, vieux de 15 000 ans, quand les fabuleuses représentations pariétales, charges de buffles, ébats de cerfs et danses d'oiseaux, atteignirent leur apogée. Sim Schulman peint des humains plutôt que des animaux, flamboyants, flottant en se superposant au gré du hasard. La première fois qu'elle avait vu son œuvre, Simone lui avait aussitôt proposé une exposition individuelle dans sa galerie. Les épais cheveux noirs de Schulman sont habituellement réunis en une queue de cheval. Ses traits sombres et marqués témoignent de ses origines irako-suédoises. Il a grandi à Tensta, seul avec sa mère Anita, qui était caissière au supermarché Ica. À 12 ans, il était membre d'un gang d'ados criminels entraînés au sport de combat et qui délestait les jeunes solitaires de leur argent et de leurs cigarettes. Un matin, on retrouva Sim sur la banquette arrière d'une voiture. Il avait sniffé de la colle et perdu connaissance. Sa température corporelle était très basse. Et quand l'ambulance était enfin arrivée à Tensta, son cœur avait cessé de battre. Il survécut et fut inscrit à un programme de réinsertion pour adolescents. Il s'agissait de terminer l'école obligatoire tout en apprenant un métier manuel. Sim avait dit qu'il voulait devenir artiste, sans vraiment savoir en quoi cela consistait. Les services sociaux engagèrent une collaboration avec l'école d'art Culture Skolan et l'artiste suédois Kev Lindberg. Sim avait raconté à Simone ce qu'il avait ressenti la première fois qu'il avait pénétré dans l'atelier de Kev Lindberg. La grande pièce lumineuse sentait la térébenthine et la peinture à l'huile. Il se baladait parmi des toiles avec des visages béants aux couleurs criardes. À peine un an plus tard, âgé seulement de 16 ans, il avait été le plus jeune élève jamais admis à l'école des beaux-arts. « Non, on devrait placer les dalles plus bas », dit Simone à Ilva, son assistante. « Le photographe pourra utiliser un éclairage indirect, ça rendra bien dans le catalogue. » On pourrait même simplement les aligner par terre et les éclairer depuis...
Aïe, aïe, aïe. Revoilà notre charmeur national,
interrompt Ilva. Simone se retourne et voit un homme en train de tirer la porte. Elle le reconnaît instantanément. Un certain Noreen, qui estime que la galerie devrait faire une expo individuelle de ses aquarelles. Il frappe et jure de l'autre côté de la porte vitrée avant de se rendre compte qu'il faut la pousser. L'homme trapu entre, regarde autour de lui, puis s'approche d'elle. Ilva se retire, dit quelque chose au sujet du téléphone et disparaît dans le bureau.
La dame semblait avoir une envie pressante, ricane-t-il. Il n'y a pas d'homme ici avec qui je pourrais m'entretenir.
De quoi s'agit-il? Demande Simone d'un ton sec. Il hoche la tête en direction d'un des tableaux de Schulman.
C'est de l'art, ça?
Oui. Répond Simone.
Ah, les femmes, dit-il plein de mépris. Vous n'en aurez donc jamais assez de mater une bite dans une chatte. C'est bien de ça dont il s'agit, non?
J'aimerais que vous sortiez d'ici, dit Simone.
Vous n'avez pas à me dire...
Dégagez!
Allez vous faire foutre, dit-il.
Puis il sort de la galerie, se retourne devant la porte et crie quelque chose en se serrant l'entrejambe. L'assistante ressort du bureau à pas feutré, avec un petit sourire.
Désolée de m'être sauvée, mais j'ai eu tellement peur la dernière fois qu'il est passé, dit-elle.
On n'aurait peut-être pas ce genre de problème si on ressemblait à Schulman, tu crois pas?
Simone sourit et pointe du doigt le grand portrait de l'artiste, posant en tenue de ninja avec une épée levée au-dessus de la tête. Elle rigole. Et au moment où elles se disent qu'elles vont s'acheter deux tenues, le téléphone se met à vibrer dans le sac de Simone.
Galerie de Simon Bark ?
Siv Sturesson du secrétariat de l'école à l'appareil,
dit une femme plus âgée au bout du fil.
Ah oui,
dit Simon d'une voix hésitante.
Bonjour.
Je vous appelle pour savoir comment va Benjamin.
Benjamin ?
Il n'est pas à l'école aujourd'hui,
explique la femme.
Et il ne s'est pas porté malade. Dans ce cas, nous contactons toujours les parents.
Je vois, dit Simon. Je vais téléphoner à la maison pour vérifier. Benjamin et Eric étaient encore tous les deux à la maison quand je suis parti ce matin. Je vous rappelle.
Elle raccroche et compose aussitôt le numéro de la maison. Cela ne ressemble pas à Benjamin de ne pas se réveiller ou d'enfreindre les règles. Avec Eric, il s'était même demandé si leur fils n'était pas un peu trop sérieux. Personne ne répond à la maison. Eric était pourtant censé faire la grasse matinée aujourd'hui. L'angoisse la reprend, puis elle se dit qu'Eric est probablement en train de ronfler la bouche ouverte, assommé par ses somnifères, tandis que Benjamin écoute sa musique à fond. Elle essaie le téléphone de Benjamin. Personne. Elle laisse un court message et tente ensuite le portable d'Eric, mais bien sûr, il est éteint.
« Il va !» crie-t-elle. « Je dois faire un saut à la maison, je reviens vite !»
L'assistante sort la tête du bureau avec un classeur épais dans les mains, sourit et crie
« Bisous, bisous !»
Mais Simone est trop stressée pour plaisanter. Elle récupère son sac, enfile son manteau et court vers le métro à petite foulée. Un silence particulier règne devant les portes des maisons vides. Dès l'instant où Simone introduit la clé dans la serrure, elle sait qu'il n'y a personne. Les patins sont par terre, ils les ont oubliés. Mais le sac de Benjamin, ses chaussures et sa veste ne sont pas là, pas plus que les vêtements d'hiver d'Eric. Le sac Puma qui contient les médicaments de son fils est dans la chambre. Cela signifie sûrement qu'Eric a administré la solution de desmopressine à Benjamin. En tout cas, elle l'espère. Elle s'installe sur la chaise, enfouit son visage dans ses mains et s'efforce de chasser de son esprit toutes les pensées négatives. Néanmoins, elle ne peut s'empêcher d'imaginer Benjamin en train de faire une embolie à cause de ses médicaments, Eric criant à l'aide, dévalant en ce moment même un escalier étroit avec Benjamin dans les bras. Simone n'arrive pas à chasser son inquiétude. Dans son fort intérieur, elle voit toujours Benjamin se prendre un ballon de basket en plein visage durant la récréation, ou être atteint d'un saignement spontané à la tête, une perle sombre qui se répand comme une étoile et s'écoule dans les circonvolutions de son cerveau. Elle sent un sentiment de honte, presque insupportable, la submerger en repensant à la façon dont elle perdait patience avec Benjamin parce qu'il ne voulait pas marcher. Il avait 2 ans et avançait encore à 4 pattes. Il ne savait pas qu'il était hémophile et que les vaisseaux sanguins de ses articulations éclataient dès qu'il se levait. Elle le grondait quand il pleurait, lui disait qu'il ressemblait à un bébé à 4 pattes. Benjamin essayait de marcher, tentait quelques pas, mais une douleur fulgurante le forçait à se jeter à terre. Quand la maladie de Willebrand fut diagnostiquée chez Benjamin, c'est Eric qui prit en charge les soins associés à la maladie, pas elle. C'est lui qui pliait délicatement ses articulations après l'immobilité de la nuit, dans un sens, puis dans l'autre, afin de diminuer le risque d'hémorragie interne. C'est lui qui administrait les injections complexes où la seringue ne devait surtout pas pénétrer dans le muscle, mais juste déverser le produit lentement et délicatement sous la peau. Une technique bien plus douloureuse qu'une injection classique. Les premières années, Benjamin serrait le visage contre le ventre de son père et pleurait silencieusement à la pénétration de l'aiguille. Maintenant, il continuait à manger son petit déjeuner sans regarder, tendait simplement le bras à Eric qui nettoyait, injectait et pensait. La solution injectable qui doit aider le sang de Benjamin à coaguler s'appelle Hémat. Le nom lui fait penser à une déesse grecque. C'est un médicament ingrat et insatisfaisant qui se présente sous la forme d'une poudre granuleuse jaune lyophilisée qu'il faut diluer, mélanger, porter à température et doser avant de l'administrer. L'hémat augmente considérablement le risque d'embolie et on espère toujours l'arrivée de quelque chose de mieux. Mais entre l'hémat, une forte dose de desmopressine et le cyclocapron en spray nasal censé protéger contre l'hémorragie des muqueuses, Benjamin est relativement à l'abri. Elle se souvient du jour où ils ont reçu la petite carte plastifiée du service d'hématologie biologique de Malmé avec la photo de Benjamin prise le jour de son anniversaire. Le visage radieux du petit garçon de 4 ans sous le texte « J'ai la maladie de Willebrand, s'il m'arrive quelque chose, appelez immédiatement le service d'hématologie au 040 33 10 10. » D'un regard circulaire, Simone balaie la chambre de Benjamin. Elle trouve un peu triste qu'il ait décroché le poster de Harry Potter et remisé presque tous ses jouets dans un carton à la cave, comme s'il s'était empressé de grandir dès qu'il avait rencontré Aïda. Simone se fiche brusquement et se dit que Benjamin est peut-être avec elle. Il n'a que 14 ans, Aïda 17. Il dit qu'ils sont juste copains, mais elle sait que c'est sa petite amie. Simone se demande s'il a même osé lui dire qu'il est hémophile. C'est elle que le moindre coup peut lui coûter la vie s'il n'a pas pris ses médicaments correctement. Depuis que Benjamin a rencontré Aïda, il a toujours son portable attaché autour du cou à un cordon noir avec des têtes de mort. Ils s'écrivent des messages jusque tard dans la nuit et Benjamin a encore le téléphone autour du cou quand on vient le réveiller le matin. Elle fouille prudemment parmi toutes les feuilles et magazines sur le bureau de Benjamin, ouvre un tiroir, déplace un livre sur la Deuxième Guerre mondiale et trouve un bout de papier avec une empreinte de rouge à lèvres noir et un numéro de téléphone. Elle se précipite dans la cuisine et compose le numéro. Ça sonne plusieurs fois et elle est en train de balancer une éponge infecte dans la poubelle quand soudain quelqu'un décroche. Une voix faible, rauque, à la respiration pénible. « Bonjour, » dit Simone. « Excusez-moi de vous déranger. Je suis Simone Bark, la maman de Benjamin. Je voulais savoir si... » La voix qui semble être celle d'une femme siffle qu'elle ne connaît pas de Benjamin, qu'elle a dû se tromper de numéro. « Attendez, s'il vous plaît, » dit Simone en essayant de garder son calme. « Aïda et mon fils se fréquentent, et je voulais savoir si vous aviez une idée de l'endroit où ils peuvent se trouver, parce que j'ai besoin de joindre Benjamin. » « Je n'entends pas. Je vous demande pardon, mais j'ai du mal à entendre ce que vous dites. »«
Tensta. »«
Tensta ? Aïda est à Tensta ?»«
Oui, ce foutu tatou. »
Simone croit entendre un chuintement régulier à l'arrière-plan, un appareil à oxygène qui œuvre lentement. « Qu'est-ce que vous essayez de dire ? » implore-t-elle. La femme grommelle quelque chose et interrompt la conversation. Simone fixe le téléphone, se dit qu'elle va rappeler la femme quand soudain elle comprend ce que la femme lui a dit. Un truc au sujet de tatouage à Tensta. Elle appelle immédiatement les renseignements et prend l'adresse d'un tatoueur au centre commercial de Tensta. Elle imagine que Benjamin s'est laissé persuader de se faire tatouer et qu'en ce moment même, le sang se met à couler sans plus pouvoir coaguler. De violents frissons lui parcourent l'échine.